Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle ce soir et je vais vous parler des travaux qu'on fait dans le laboratoire de Facebook où je travaille. Et d'abord, je voulais commencer par un petit exemple. Imaginez que vous êtes invité chez des amis, il y a une soirée, et vous arrivez, mais en fait, vous êtes malvoyant. Vous vous approchez de la table et là, vous sortez votre téléphone et vous arrivez à prendre une photo. Vous arrivez à prendre une photo. Et là, vous vous posez une question très simple, en fait. Est-ce que c'est un plat végétarien? D'accord, c'est une question qui peut se produire pour plein de raisons. Et donc, en fait, évidemment, si jamais vous posez ça à un ami, il va être capable de répondre immédiatement. Il va regarder sur la pizza, détecter qu'il y a des petits bouts qui ressemblent à de la viande. Normalement, ça en est. Et être capable de dire que... Ok, un végétarien ne mange pas de viande, cette pizza a de la viande, donc ce n'est pas un plat végétarien. C'est vraiment pas très compliqué. Eh bien, imaginez que si vous demandez ça à un assistant personnel qui serait dans le téléphone, une machine supposée intelligente, eh bien, elle va être très, très embêtée pour répondre à ce type de questions. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et de vous expliquer pourquoi, comment on fait pour qu'une machine, au bout d'un moment, puisse être capable de répondre à une question pareille. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour une machine? Parce qu'en fait, cette tâche qui semble très simple fait appel à trois des problèmes principaux de l'intelligence artificielle. Et là, je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul, mais bon. Très bien. Trois problèmes principaux. Un, la perception. C'est ce qui nous permet, en fait, nous, de détecter que sur la pizza, il y a de la viande. Okay. Deux, c'est la connaissance. C'est en fait, c'est toutes les connaissances qu'on a, le sens commun, la connaissance du monde, qui font qu'en fait, ben, juste là, à ce moment-là, on est capable d'utiliser le fait qu'on sait qu'un végétarien ne mange pas de viande. Okay, mais ce n'est pas non plus évident, et pourtant, tout le monde le sait. Trois, c'est le raisonnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place la détection de la viande et qu'on a aussi mis en place retrouver nos idées, savoir qu'un végétarien ne mange pas de viande, on combine les deux, on dit... En fait, ce petit raisonnement qui ici est très simple, mais qui en fait pour une machine peut être très compliqué. Et donc en fait, je vais vous dérouler durant cette présentation un petit peu des travaux de recherche qu'on fait dans ces trois directions pour essayer d'améliorer ce que les machines sont capables de faire. Donc commençons par la perception. Là, vous voyez sur l'écran ce que la majeure partie des machines voit quand on leur montre une photo. Voilà. Donc c'est quand même assez abstrait. C'est pas un tableau cubique, hein, c'est censé être une photo qui représente une scène de la vie normale. Donc, en fait, la machine voit juste des blocs qui sont en fait autour des objets qu'elle a détectés. Et quand c'est un petit peu plus perfectionné, la machine va aussi mettre des étiquettes. Donc ici, j'aurais pu rajouter que la machine a détecté que les trois blocs sont en fait des personnes. Même si je vous donne cette information, vous allez avoir un peu du mal à me dire en fait qu'est-ce qui se passe dans cette scène. Donc la recherche en perception va en fait consister à essayer d'améliorer cette représentation que la machine peut avoir des images. Améliorer, ça veut dire peut-être être capable de déterminer les contours. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une boîte qui est très grossière, on va essayer d'être capable de faire ce qu'on appelle de la segmentation, c'est-à-dire être capable d'entourer complètement les objets. Ensuite, une étape suivante, c'est d'essayer même de mettre un squelette sur les personnes, ce qu'on appelle déterminer la pose. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'un homme se tient comme ça, qu'un homme est accroupi, etc. Et déjà, si jamais vous voyez ça, ce qui est toujours, on voit toujours aucun pixel de l'image, c'est quand même beaucoup plus simple de voir déjà ce qui se passe. Et avec un petit peu d'imagination, on peut peut-être déterminer qu'en fait, il s'agissait d'une scène de baseball. D'accord ? Bon. Facebook est une compagnie américaine, j'aurais dû prendre du foot. voilà, donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avancer et de faire ça pour une image, mais de faire ça pour n'importe quelle image, de faire ça pour toutes les images qui arrivent sur Facebook et de faire ça aussi sur les vidéos. Donc, ce n'est pas juste le faire comme ça, un exemple comme ça, il faut le faire très rapidement et en temps réel. Ça demande du travail. Mais ensuite, quand on améliore la perception, on peut faire des choses intéressantes et marrantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, on va essayer de mélanger perception et connaissance. Et pour ça, on a une tâche qui nous sert à évaluer un peu comment les machines arrivent à combiner les deux. C'est une tâche très simple. On donne des photos et une image et on demande à la machine d'écrire la légende. Okay, donc voilà. Donc là, je vous montre deux photos qui nous servent de test. Et voilà les légendes qu'a écrit la machine. Okay, c'est une machine toute seule. Hein, ce n'est pas du tout écrit par un humain. Et quand les chercheurs ont vu ça, ces travaux ont 2 ans, tout le monde a été bluffé. En fait, les légendes sont extrêmement correctes. C'est-à-dire qu'à droite, la légende « un homme surfant sur une vague » est parfaite, elle colle parfaitement à l'image. les gens étaient là, OK, les machines sont vraiment extrêmement fortes. Et on montre une autre image qui n'a rien à voir, pas du tout les mêmes couleurs, pas du tout les mêmes objets, et la machine est capable de dire qu'il s'agit d'une girafe debout près d'un arbre. Donc là, on pourrait se dire, ah oui, en fait, les machines ont quand même une connaissance assez forte. Mais il faut faire attention en science, donc on peut donner d'autres images. Donc voilà d'autres images qui sont moins fréquentes et un peu plus surprenantes. Et voilà les légendes qui ont été générées par la machine. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a vu ces images, on s'est dit, OK, bon, il y a encore du travail. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe en fait que la machine est capable de détecter des objets. Ça, c'est ce que je vous ai montré au début. On est capable de le faire assez bien grossièrement, mais on est capable de le faire. Donc en fait, là, dans la photo de droite, la machine va détecter quoi? Elle va détecter un avion et elle va détecter une route. Okay? Et après, elle va juste essayer de faire une association. Qu'est-ce qui est le plus probable quand je vois un avion et une route? Eh ben, la route, c'est un tarmac d'aéroport, donc ça veut simplement dire qu'un avion est sur un tarmac d'aéroport. Toutes les autres photos avec des avions, c'est dans le ciel, donc c'est très simple. Pareil, l'autre photo, je détecte une moto, je détecte quelque chose qui ressemble à de la poussière ou à du sable. Bon, ben, c'est simple, c'est quelqu'un qui roule sur une plage, c'est évident. Voilà. Et en fait, si vous revenez, vous rappelez les deux photos que j'ai montrées avant, pour lesquelles ça a marché, en fait, le raisonnement là-bas est très très simple. Dans la photo avec le surfeur, en fait, la machine a détecté un homme debout sur de l'eau. D'accord ? Voilà. À partir de ça, il n'y a pas 50 000 possibilités. Hein. Enfin, je ne sais pas. Enfin, vous pouvez être créatif, mais la machine n'est pas créative, elle. Donc, elle va dire, bon, ben, un homme qui marche sur de l'eau, il surfe. Hein. Bon, voilà. Et après, bon, ben, on surfe sur quoi ? Ben, sur une vague. Hein. Il n'y a pas 50 000 options. Donc, voilà, un homme surfant sur une vague. Et l'autre, c'est pareil. La machine a détecté une girafe. Eh bien, les girafes sont tout le temps debout, donc c'était facile. Hein. Donc bon, voilà, c'est une girafe debout, donc ça c'était facile. Et après, près d'un arbre, bon, ben, en fait, c'est la chance qu'il y ait un arbre dans l'image est quand même assez élevée, donc ça ne mange pas de pain, je vais dire, allez, une girafe debout près d'un arbre. Et voilà. Et en fait, il fallait faire très attention, parce qu'en fait, les machines sont capables de détecter les objets et de faire des associations très simples en surface. Donc elles vont essayer de chercher le phénomène le plus fréquent. Mais dès qu'on va aller dans des choses plus inattendues, des choses qui demandent en fait d'avoir une connaissance plus fine du monde et des phénomènes, à ce moment-là, c'est toujours la catastrophe. Une autre méthode, une autre tâche qu'on utilise, ça c'est pour apporter des connaissances du monde physique aux machines, c'est une tâche aussi qui est très simple à définir. On va donner le début d'une vidéo et on demande à la machine de prédire la suite. Okay, donc c'est des toutes petites vidéos, on n'est pas à faire des films en entier. Mais donc en fait, ça nous sert, surtout c'est des petits clips, c'est pour essayer de voir que la machine puisse avoir une idée des processus physiques. Quand je laisse un objet, où va l'objet? Quand j'avance comme ça, il ne faut pas me faire apparaître à l'arrière, il faudrait plutôt me faire apparaître devant, puisqu'en fait, il y a des aspects de déplacement. Et là, donc, en fait, derrière moi, les premières images, c'est quand la vidéo qu'on a donnée, et à partir du moment où c'est entouré en rouge, c'est ce qu'a prédit la machine. D'accord? Et donc, en fait... ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la machine était totalement capable de prédire que toute la foule de la fanfare allait marcher dans la bonne direction en suivant le bon rythme. C'était vraiment très, très impressionnant. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant pour nous, c'est que les trompettes ont l'air d'exploser. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, en fait, ce qui est quelque chose qui est quand même assez inattendu, encore une fois. Et pourquoi ça? En fait, les machines n'ont pas d'idée du sens commun de ce que sont les objets. Elles n'ont pas une idée de choses qui sont de physique très simple, qui sont qu'en fait de la conservation de masse, etc. Donc en fait, elles vont juste essayer de prévoir une vidéo qui va bien avec ce qu'elle a vu. Et en fait, le problème des trompettes, c'est que les trompettistes, ben, ils gardent pas toujours la trompette exactement au même endroit. Ils peuvent la monter, la descendre, la faire tourner. Et donc en fait, ben, la machine, quand elle va prédire la position de la trompette, ben, elle va essayer de trouver un espèce de juste milieu. Bon, ben, le juste milieu, ça fait juste un espèce de gros blob jaune où peut se trouver la trompette. Alors qu'on préférait qu'elle choisisse une position, même si ce n'est pas la bonne. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais qui aussi, nous donne des pistes de recherche extrêmement intéressantes. Voilà. Donc j'ai parlé de perception, j'ai parlé de connaissance, et là maintenant, je voulais parler du troisième pilier dont j'ai parlé au début, c'est le raisonnement. Alors je sais qu'il est un petit peu tard peut-être, mais je vais quand même vous donner des exercices qui sont assez compliqués. Voilà. Donc, c'est des exercices qu'en fait, on a designés dans notre laboratoire pour essayer de tester les capacités de raisonnement des machines. Donc, voilà, des exercices extrêmement durs. Donc, Je vais vous lire ces petites histoires et on donne des questions. Donc Jean est dans le jardin, Jean ramasse le ballon, Paul va dans la cuisine, où est le ballon? D'accord? Bon. Voilà, donc normalement, si personne ne dort, normalement, vous devriez dire le jardin, à part, mais... Je ne vais pas vous demander, je vais mettre personne mal à l'aise. Mais néanmoins, toujours est-il que ça, cette méthode-là, il y a deux ans, cette tâche-là, il y a deux ans, les machines dites intelligentes n'arrivaient pas à la résoudre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple, mais en fait, il faut quand même être capable de mettre en correspondance deux phrases. Alors souvent, on va faire des histoires qui sont peut-être un peu plus longues que celles que j'ai mises là. Il faut arriver à trouver les deux phrases, les mettre en correspondance, les combiner. Puisqu'en fait, évidemment, dans la phrase où on parle du ballon, on ne donne pas jardin. Donc il faut arriver à comprendre que Jean a ramassé le ballon, donc que Jean tient le ballon, et qu'en fait, du coup, l'endroit où se trouve le ballon, ben, c'est l'endroit où se trouve Jean. Pour vous, c'est évident, c'est même marrant. Ben, pour une machine, ce n'était pas évident du tout. Et en fait, grâce à ces petites histoires, on est capable d'augmenter la complexité de ce qu'on va demander aux machines. Donc on va créer des histoires de plus en plus compliquées, et donc on va demander aux machines de faire des raisonnements de plus en plus compliqués. Et c'est très intéressant pour nous, parce qu'on arrive à tester des capacités de raisonnement sans avoir à traiter les choses de perception dont j'ai parlé avant, sans avoir à traiter les choses de connaissance du monde, de physique, qui sont des problèmes qui sont compliqués aussi. On arrive comme ça à traiter de façon isolée. Et on peut faire des histoires qui finalement sont aussi très courtes, mais qui sont déjà beaucoup plus compliquées, même pour les humains. Donc la cuisine est au nord du couloir, la salle de bain est à l'ouest de la chambre, le bureau est à l'est du couloir et la cuisine est au sud de la chambre. Comment aller du bureau à la chambre? Voilà. Voilà, il faut suivre le couloir, c'est pas bête. Voilà, c'est pas beaucoup plus... Les mots sont tous très simples. Il y a quatre phrases, il y a une question, et là, tout le monde se dit, oula, oui, déjà, c'est plus compliqué. Et en fait, pourquoi? Et c'est quelque chose qui se rejoint en fait à ce qu'on fait dans les machines aussi. C'est une question de représentation des connaissances. On n'est absolument pas habitué à représenter un plan sous forme de phrases comme ça. Parce qu'en fait, c'est absolument pas naturel. Si je vous donne le plan comme ça, c'est extrêmement évident. Vous trouvez tout de suite comment on va du bureau à la chambre. Effectivement, il fallait passer par le couloir, mais il fallait aussi passer par la cuisine. Mais bon, c'est pas mal déjà. Voilà, et donc en fait, nous aussi, on peut tester la façon dont les machines sont capables de traiter des raisonnements, mais aussi de voir à quel point, comment est-ce qu'on donne les informations, comment est-ce qu'elles sont représentées, ça impacte. Est-ce que les machines ont aussi besoin de se représenter un plan pour résoudre cette tâche, ou pas? Bon, bah, la nouvelle, c'est qu'elles n'en ont pas besoin, elles y arrivent beaucoup plus facilement que nous, en fait, celle-là. Mais bon, il y en a qu'on arrive bien mieux qu'elles. Voilà. Mais évidemment, ces tâches synthétiques, ces histoires, ça nous sert d'outils pour essayer de développer des méthodes. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut faire au final. On a des objectifs un peu plus élevés et surtout des tâches utiles au final. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer d'étendre, par exemple, ce travail. Alors, on voudrait résoudre le problème du début avec la pizza, évidemment, mais il y a d'autres tâches. C'est-à-dire, par exemple, on peut vous dire, on va faire aussi pareil des questions-réponses, sauf que ben, les questions vont être plus compliquées, et puis ça ne va pas être un texte, mais on va dire qu'on doit chercher la réponse dans tout Wikipédia. Okay, donc c'est quand même plus long, ça prend plus de temps à lire. Et on va donner à la machine juste les articles de Wikipédia, et puis elle doit les lire et essayer de trouver les réponses. Et donc, par exemple, j'ai posé à la machine qu'on développe en ce moment, question qui est reliée à ce soir, comment s'appelait Tours dans l'Antiquité? Tout le monde sait ça, évidemment, je suppose, donc je ne vais pas la demander. Moi, je le savais aussi, évidemment. Donc, je vais le dire quand même, mais c'est pour bien le prononcer. Donc, donc en fait, ce qu'on voudrait, c'est que là, voilà, donc, vous pouvez le lire vous-même, d'ailleurs, c'est même difficile à prononcer, je pense. Ça se dit ces heureux d'homme. Pas fait de latin depuis un moment. Donc, en tout cas, ce qu'on voudrait dans ce cas-là, c'est que la machine soit capable, étant donné la question, d'aller lire les articles, de trouver le bon article, qui n'est pas forcément celui de la ville de Tours, d'ailleurs, dans ce cas-là. Ensuite, dans l'article, de trouver la phrase, qui ici est la première, et en fait, de lire la phrase qui dit « César Odonome est le nom de la cité du Haut-Empire qui a précédé Tours ». D'ailleurs, donc, les gens pourraient débattre sur le fait qu'en fait, c'était effectivement Tours ou pas Tours. D'ailleurs, je ne suis pas rentré là-dedans. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse pour la machine, c'est qu'on passe des tâches synthétiques qu'on a faites à une extension qui fait appel quasiment au même processus, mais à une échelle beaucoup plus grande, et on peut essayer de voir comment les machines sont capables de se comporter. Et ben, pour tout vous dire, la machine a répondu Grégoire à comment s'appelait Tours dans l'Antiquité. Voilà, hein, on ne se cache rien. Et pourquoi? Mais c'est intéressant pourquoi, parce qu'en fait, j'ai formulé la question avec comment s'appelait. Et s'appeler, en fait, est souvent associé en fait, à appeler des gens et pas forcément des lieux. Donc, en fait, la machine a plutôt essayé de chercher une personne plus qu'un lieu. Donc c'est encore une erreur, vous pourrez dire, un peu importante. Mais du coup, elle va plutôt chercher une personnalité importante reliée à Tours dans l'Antiquité. Et en fait, elle m'a dit Grégoire pour la page de Saint Grégoire de Tours, qui n'était pas correcte. Voilà. Donc en fait, dans cette présentation, je voulais vous montrer un peu un panorama déjà de où on en est en intelligence artificielle sur des tâches qui sont vraiment fondamentales, la perception, l'acquisition de connaissances, le raisonnement, et comment est-ce qu'on peut essayer de les combiner pour essayer de faire des tâches de plus en plus complexes, et aussi de vous montrer les limites des méthodes actuelles, ces limites qui sont aussi importantes pour nous, pour essayer de déterminer où est la frontière et où est-ce qu'on peut travailler pour essayer d'améliorer. Et voilà, et comme je vous ai dit que je travaillais à Facebook au début, je vais quand même finir par vous montrer une application sur laquelle on travaille, qui en fait est une application directe de ce que je vous ai montré au début. Donc ça, en fait, c'est l'interface du fil d'actualité Facebook, mais tel qu'en fait, il est visible pour les... Alors, pas visible, justement. Il est accessible pour les malvoyants, et en fait, il y a une... c'était moyen, ça. Ouais. Il est tard. Et en tout cas, il y a une interface qui permet en fait à une voix de lire tout ce qui se passe sur le fil d'actualité. Et le problème qui se pose, c'est qu'évidemment, le fil d'actualité est rempli de photos et que les photos, on ne peut pas les lire. Donc en fait, ce qu'on a développé et qu'on continue de développer avec les équipes de Facebook, c'est finalement en fait, d'être capable de générer automatiquement des descriptions qui peuvent être lues aussi et qui donnent une meilleure idée. Donc là, pour l'instant, ce qui est déployé, c'est aux États-Unis. Ça veut dire que en fait, l'image peut contenir des arbres, du ciel, et se passe dehors. Donc en fait, avec ça, on est plutôt au début de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'on a une description quand même assez limitée. Voilà. Et en fait, nous, tout simplement, avec les méthodes qu'on fait, on aimerait bien générer une description comme celle-là. Cette image contient un ciel bleu magnifique, entouré de séquoias immenses, et a été prise en contre-plongée. Voilà. Et en fait, c'est l'image réelle. Voilà. Et en fait, c'est vraiment aligné avec ce que je vous ai dit, et tout de suite, ça peut permettre à donner à des gens qui ne sont pas capables d'accéder aux photos, une meilleure représentation de ce qui se passe sur leur fil d'actualité. Merci beaucoup.